Et le journal vous est présenté par Frédéric Saïs. Bonjour Frédéric.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Laxiste contre répressif, le débat autour de la justice et ses caricatures est de retour. Un amendement voté par la gauche à l'Assemblée nationale supprime les tribunaux pour mineurs récidivistes. C'était l'un des marqueurs du quinquennat Sarkozy. Précision de Corinne Audouin. Le syndicat Sud Solidaire se rallie finalement à l'accord sur le travail dominical au BHV à Paris. Récit dans ce journal de Raphaël Ebenstein. Atmosphère de purge au sein du pouvoir turc. Le Premier ministre annonce sa démission sous pression. L'autoritaire président Erdogan sape peu à peu tous ses contre-pouvoirs. Nous dira Eric Biegala, 1 000 000 de pompiers, 150 hélicoptères et près de 100 000 personnes évacuées. Un pont aérien a été mis en place au Canada, dans la province de l'Alberta. Nous irons sur place. Et puis, grand soleil du 21e siècle, ce n'est pas la météo du jour, mais le titre officiel de Kim Jong-un dans les médias nord-coréens. À la fin de ce journal, le portrait du jour sera consacré à l'une des figures médiatiques de la propagande nord-coréenne. 6 mai 2012, 6 mai 2016, cela fait aujourd'hui précisément 4 ans que François Hollande est au pouvoir. Comme chaque année, cette date est l'occasion de faire un point sur les promesses tenues ou non. Et c'est sans doute un hasard, mais la majorité de l'Assemblée nationale vient de voter l'un de ses engagements, la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs. C'était donc l'un des marqueurs de la présidence de Nicolas Sarkozy. Créés en 2011, ces tribunaux devaient s'occuper des délits passibles de plus de 3 ans de prison. Ils étaient dans le viseur du candidat puis du président François Hollande, tout comme les peines planchers supprimées. En 2014, cet amendement doit encore être voté dans l'hémicycle à partir du 17 mai. Une mesure qui devrait relancer les procès en laxisme judiciaire du gouvernement Corinne Audouin.
L'idée de ces tribunaux, c'était de donner plus de solennité à la comparution des mineurs récidivistes de plus de 16 ans en les faisant juger par des magistrats non spécialisés. Mais le bilan n'est pas probant, la procédure est chronophage, pour au final des condamnations pas plus sévères que celles données par les tribunaux pour enfants classiques. Après 5 ans d'atermoiement, le gouvernement soutient donc leur suppression, le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas.
Il doit y avoir une primauté de l'éducatif quand nous traitons de la délinquance des mineurs. Non seulement le gouvernement soutient l'initiative parlementaire, y apporte tout son concours, mais encourage l'Assemblée nationale à la voter de manière massive.
Mais la droite n'entend pas renoncer si facilement à l'un des marqueurs du sarkozysme, prévient le député Les Républicains, Éric Ciotti.
Je crois que c'est une erreur et c'est une faute qui est guidée par des raisons purement idéologiques. Ce que Mme Taubira n'a pas réussi à faire, c'est vous qui le ferez. Ça nous déçoit, monsieur le garde des Sceaux. Aujourd'hui, je le dis, nous nous opposerons avec beaucoup de force à cette suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs.
Promise dès 2012, cette suppression ne bouleversera pas le quotidien de la justice des mineurs, mais elle donnera à la majorité et à l'opposition l'occasion de relancer, une dernière fois, avant la fin du quinquennat, leur vieille querelle autour des questions sécuritaires.
Et aujourd'hui, c'est une journée de répit à l'Assemblée nationale, notamment quant à l'examen de la loi travail. Les députés font le pont, les débats reprendront lundi. Le débat public, lui, continue. Dans son numéro du mois de mai, le magazine Alternative économiques publie un manifeste pour, je cite, « remettre la réduction du temps de travail au cœur des discussions ». Un manifeste signé par 150 personnalités dont Michel Rocard, Caroline Dehaas, Benoît Hamon ou encore l'économiste Pierre Larouturou. Parmi les pistes proposées, la réduction de la semaine de 5 à 4 jours. Pierre Larouturou.
Il faut que ce soit souple et diversifié, mais on se rend compte que si on veut vraiment créer des emplois et si on veut que ça profite à tous les salariés, tout le monde comprend que si on baisse seulement d'une heure ou deux le temps de travail, on ne va pas créer beaucoup d'emplois. Il y a de plus en plus de métiers où on ne compte pas vraiment ses heures, et ce qui compte, c'est les jours où on va au boulot et les jours où on n'y va pas. Donc c'est pour ça que quand on fait des enquêtes, on se rend compte que pour beaucoup de salariés, finalement, ce qui compte, c'est le nombre de jours. Et si chacun travaille un jour de moins, là, l'entreprise va créer des emplois, et on va gagner en qualité de vie. Il y a un jour où on ne prend pas la voiture, on ne prend pas le RER, on est chez soi, on peut avoir du temps pour soi, pour sa vie personnelle, pour un autre engagement. Donc en fait, on se rend compte que ce qu'il faut, c'est réduire vraiment très fortement sur l'année et si possible sur la semaine le temps de travail. Après ça, c'est souple. Pour des chercheurs, il y a des entreprises qui sont passées à 4 jours où la plupart des salariés sont vraiment passés à 4 jours. Et pour certains métiers, c'est une semaine de vacances toutes les 4 semaines ou un mois tous les 4 mois. On parle des 4 jours à la carte. Ce qu'il faut, c'est une réduction forte avec au moins 10% d'emplois créés. Il faut mettre une barre avec des créations d'emplois et que l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage. En tout cas, c'est ce qu'on s'attend à proposer. Si on veut qu'il n'y ait pas de baisse de salaire, il faut en même temps qu'il n'y ait pas de baisse de salaire et qu'il n'y ait pas une augmentation du coût pour l'entreprise. Sinon, les clients iront voir ailleurs. Et c'est possible en France en utilisant autrement l'argent des caisses de chômage.
Pierre Larouturoux, invité du journal de 22h de France Culture hier soir, d'Élodie Forêt. Le BHV du Marais à Paris pourrait être le premier grand magasin à ouvrir le dimanche. Les syndicats Sud Solidaire et CFE-CGC, qui représentent à eux deux plus de 30% des salariés du grand magasin, viennent de signer un projet d'accord qui prévoit notamment le travail dominical sur la base du volontariat pour un maximum de 15 dimanches par an. Tout cela serait payé double. L'accord pourrait s'appliquer dès cet été dans ce grand magasin qui appartient aux Galeries Lafayette. Raphaël Ebenstein.
Aucun commentaire de la part de la direction du BHV, mais la situation semble paradoxale pour cette filiale du groupe Galeries Lafayette. Elle se retrouve en effet en avance sur sa maison mère, où un projet d'accord sur le travail dominical a été rejeté en interne cette semaine par tous les syndicats. Dans le texte approuvé au BHV, outre évidemment la base du volontariat, il y a une majoration prévue de 100%, soit un doublement du salaire le dimanche, pour tous les employés qui travailleront jusqu'à 15 dimanches par an. Au-delà, ce sera plus 50%. La direction a même également concédé une participation aux frais de garde éventuels des enfants, dans la limite de 1 800 euros par an et par foyer. Mais surtout, elle s'engage sur 150 créations nettes d'emplois à Paris, ainsi qu'au maintien des deux magasins de région lyonnaise pendant toute la durée de l'accord. Des arguments qui ont donc visiblement convaincu les délégués sud de signer le texte, malgré l'opposition de leur propre fédération du commerce. Elle a toujours combattu le travail du dimanche au niveau de la branche professionnelle.
Des dépenses non conformes et un redressement d'un million d'euros, le Front National épinglé par la Commission nationale des comptes de campagne. C'est notamment le coût de tracts électoraux pendant la campagne des départementales l'an dernier qui est mis en cause. La Commission des comptes de campagne soupçonne une surfacturation des kits. Le parti de Marine Le Pen ne sera donc pas remboursé pour l'intégralité de ses dépenses. Le Front National et plusieurs membres du parti avaient déjà été mis en examen dans une affaire similaire en septembre dernier. Punir les passeurs et non les migrants, c'est l'une des anciennes du gouvernement. La comparution tout à l'heure au tribunal de Dunkerque de 5 personnes en donne un exemple. 2 Kurdes et 3 Français accusés d'avoir fait passer illégalement des migrants vers l'Angleterre depuis le nord de la France. Ils sont poursuivis pour aide à l'entrée et au séjour illégal en bande organisée. Les explications d'Antoine Marette.
Les tâches étaient visiblement bien réparties. Les 2 Kurdes sont soupçonnés d'avoir fait passer directement les migrants sur des aires d'autoroute situées près de Dunkerque. Les 3 Français auraient assuré de leur côté le soutien logistique. Un système bien rodé avec des complicités, des chauffeurs bien souvent venus de pays de l'Est qui amenaient les migrants vers des endroits discrets pour leur permettre de rejoindre plus facilement des camions. Et même les tenanciers d'un café qui aurait servi de quartier général aux passeurs. Le passage se monnayait entre 5 et 10 000 euros. Le paiement se faisait depuis la Grande-Bretagne ou l'Irak vers la France via des transactions de type Western Union. En plusieurs mois de trafic, les suspects auraient ainsi récolté plus de 300 000 euros. C'est la police aux frontières qui a démantelé le réseau à la mi-février. Les 5 hommes jugés à partir d'aujourd'hui encourent jusqu'à 10 ans de prison, une amende de 750 000 euros et la confiscation de l'ensemble de leur patrimoine.
Antoine Marette. En Grande-Bretagne, justement, les relations avec l'Europe ont imprégné la campagne pour les élections locales et régionales qui ont eu lieu hier. Ce matin, les premiers résultats sont mauvais pour le Parti travailliste, le Labour emmené depuis peu par Jeremy Corbyn, plus à gauche que ses prédécesseurs. Il s'agit de renouveler 2700 conseillers municipaux. Selon les premiers chiffres portant sur la moitié des scrutins, les travaillistes perdent 27 sièges, recul encore plus sensible en Écosse et au Pays de Galles. Une déconvenue que pourrait atténuer une victoire à Londres, où le candidat travailliste Sadiq Khan était donné gagnant par les sondages. On y revient dans le journal de 7h30. En Turquie, le Premier ministre Ahmet Davutoğlu l'a annoncé hier. Il ne se représentera pas à la présidence de l'AKP, le parti majoritaire, lors du prochain congrès le 22 mai, remettant du même coup sa démission du poste de chef de gouvernement. Les différends entre le Premier ministre et le président Recep Tayyip Erdogan sont apparus au grand jour cette semaine. La succession du Premier ministre devrait revenir à un fidèle du président turc, Eric Biegala.
Les cercles politiques d'Ankara évoquent d'ores et déjà, comme successeur à l'affable Davutoğlu, les noms de l'actuel porte-parole du gouvernement, celui du ministre de la Justice ou encore celui des Transports ou de l'Énergie, ce dernier étant également le gendre du président Erdogan. Peu importe, finalement, ce qui est certain, c'est que le futur Premier ministre turc devra être apparemment, surtout et avant tout, un partisan absolument fidèle du président Erdogan. À vrai dire, le rôle principal du prochain chef du gouvernement, rôle qui était déjà celui dévolu à Davutoğlu et qu'il n'a pas suffisamment tenu, sera de trouver une majorité pour modifier la constitution et présidentialiser complètement le régime. Aujourd'hui, le rôle constitutionnel du président Erdogan est largement protocolaire. mais lui-même entend transformer le président de la République turque en un véritable chef de l'exécutif, rôle aujourd'hui rempli par le Premier ministre. En clair, le prochain Premier ministre devra surtout s'effacer pour laisser le pouvoir à Erdogan. Soit en convoquant un référendum pour modifier la constitution, avec la majorité absolue qu'il détient à la Chambre, le parti d'Erdogan, l'AKP, en a le pouvoir, soit en imposant directement cette réforme constitutionnelle grâce à une majorité des 3/5 à la Chambre. Cette majorité-là, Erdogan ne l'a pas encore et il pourrait bien, pour tenter de l'obtenir, convoquer de nouvelles législatives anticipées. Ce serait la 3e consultation en 1 an et demi.
Eric Biegala, j'ai du mal à le soutenir pour l'instant. Les mots cette nuit sont ceux de l'un des ténors républicains aux États-Unis à propos de Donald Trump. Paul Ryan préside la Chambre des représentants et traduit l'état d'esprit général au sein du Parti républicain. Malgré son triomphe aux primaires, où il est désormais sans rival, Donald Trump peine à se faire accepter d'un parti dont il n'a cessé de critiquer les hiérarques. C'est un autre genre d'ennui qui attend Hillary Clinton. Des proches de la très probable candidate démocrate ont été interrogés par le FBI. Elle-même devrait passer à la question selon CNN dans les prochaines semaines. Cela dans l'affaire de la boîte email, des milliers de messages électroniques envoyés par Hillary Clinton sur sa boîte mail privée et donc non sécurisée alors qu'elle était à la tête de la diplomatie américaine entre 2009 et 2013. C'est un incendie dont la surface s'est multipliée par 10 en 24 heures. Une partie des grandes forêts de la province de l'Alberta au Canada est en train de partir en fumée. La localité de Fort McMurray est partiellement encerclée par les flammes. 90 000 personnes ont dû être évacuées dans cette région où l'industrie pétrolière est très présente. Précision sur place de Pascal Guéricola.
Jamais le Canada n'a eu à vivre l'évacuation d'une ville de la taille de Fort McMurray suite à un incendie de forêt. Plusieurs habitants ont dû quitter très rapidement leur quartier alors que les flammes embrasaient déjà plusieurs maisons. Heureusement, personne n'a été blessé. Attisé par des vents violents, l'incendie ne cesse de s'étendre. Au point que Tom Burton, un expert en forêt, doute que les centaines de pompiers assistés d'une vingtaine d'avions-citernes parviennent à le maîtriser d'ici quelques jours.
Soyons clairs, les avions-citernes ne peuvent pas arrêter ce feu. C'est un incendie majeur. Il va continuer à prendre de l'ampleur dans les conditions de sécheresse actuelles si la pluie ne vient pas à notre aide.
Depuis plusieurs jours, il fait anormalement chaud à Fort McMurray, 30 degrés contre 15 en moyenne à cette saison. La chaleur favorise la propagation du feu comme la sécheresse de cette forêt de résineux après un hiver où il a très peu neigé. Selon plusieurs spécialistes, les incendies forestiers connaissent une forte hausse depuis une quarantaine d'années. Et les modèles climatiques laissent entendre que des feux de grande ampleur pourraient se multiplier dans l'Ouest canadien dans les années à venir. Sur le terrain, les pompiers travaillent d'arrache-pied pour sauver Fort McMurray et ses principales infrastructures, comme l'hôpital et l'aéroport, en espérant que la météo leur soit bientôt favorable.
7h13 sur France Culture, l'heure du portrait du jour. Ce matin, Lee Chun-hee, la présentatrice télé préférée du régime nord-coréen, Frédéric.
Et c'est même une figure indissociable du régime. Cette présentatrice zélée devrait être omniprésente aujourd'hui sur les téléviseurs de Corée du Nord. Pyongyang organise ce vendredi le 7e congrès du Parti des Travailleurs depuis 1980, le premier depuis plusieurs années. Cela pour cimenter le pouvoir absolu du dirigeant Kim Jong-un, plaisamment surnommé Grand soleil du 21e siècle par la propagande. Lee Chun-hee, présentatrice vedette de Pyongyang, son portrait nous est dressé par Frédéric Ojardias à Séoul.
Elle est toujours là, fidèle au poste, aussi dure à cuire que le régime dont elle se fait le chantre. Lee Chun-hee, c'est la figure de proue des propagandistes nord-coréens, le vaisseau amiral d'un culte de la personnalité exacerbée. C'est aussi l'une des rares célébrités tolérées par un régime qui d'habitude ne laisse personne, à part ses dirigeants suprêmes, attirer ainsi la lumière sur lui. Une starlette de plus de 70 ans, aux cheveux courts et permanentés, toujours vêtue d'une robe traditionnelle, timbre surpuissant, verbe rageur, regard féroce posé sur la caméra, Lee Chun-hee décrit le monde tel que la dynastie des Kim le rêve. Le grand leader a visité un bataillon prêt à fondre sur les pantins du sud. Le grand leader a visité une usine de dentifrice qui a dépassé ses quotas de production. Le grand leader fait l'admiration de la planète. Le grand leader a visité une ferme à champignons. Quand Lee Chun-hee annonce les nouvelles, nos ennemis tremblent de peur. C'est un jour émerveillé, un journal nord-coréen. Depuis des décennies, l'information infatigable présentatrice vitupère, gronde et menace. Elle exalte jour après jour les réussites miraculeuses de l'indomptable nation nord-coréenne et elle promet invariablement la victoire finale. Vêtue de noir pour les deuils nationaux ou rose bonbon pour les glorieuses explosions nucléaires, Lee Chun-hee est le sémaphore vociférant des soubresauts du régime. Il y a quelques années, elle a pris une semi-retraite, réservant ses rares apparitions à la télévision centrale pour les événements les plus historiques, faisant à chaque fois frétiller d'excitation les observateurs du régime. Son dernier retour à l'antenne en janvier après le quatrième essai nucléaire serait le signe de la volonté des Nord-Coréens d'adopter une ligne dure comme lors de la guerre froide, croit ainsi savoir un expert américain. Membre de l'élite, Lee Chun-hee coule des jours heureux à Pyongyang avec son mari, ses enfants et ses petits-enfants, loin, bien loin des malheurs du reste de la population, malnutrition chronique, camps, purges, terreurs policières, des malheurs qui n'existent pas, puisqu'en 40 ans de télévision, Lee Chun-hee n'en a jamais parlé.
Le portrait du jour, signé Frédéric Ojardias, à retrouver sur franceculture.fr. La météo,
la météo avant de se quitter.
Nicolas Martin,
rapidement.
Soleil partout, nuancé de quelques nuages sur le quart sud-est, de 19 à 24 degrés du nord au sud.